déjà, on va commencer tout simplement, Fred Hidalgo. Comment est-ce que vous vous êtes rencontré avec Jean-Jacques Goldman?
Eh bien, c'est très précis. C'est juste après son passage au Zénith à Paris, son premier passage. C'était en décembre 85. Et à ce moment-là, je dirigeais un mensuel, un magazine qui s'appelait Paroles et Musique. Et nous avions consacré un dossier spécial à Jean-Jacques Goldman, deux mois auparavant, donc à l'approche du Zénith, pour essayer de faire le tour un peu de ce personnage qui nous intriguait beaucoup, parce que ses chansons étaient énormément diffusées à la radio, mais la grande presse parisienne le vilipendait d'une manière absolument incroyable. C'est-à-dire qu'elle ne s'en prenait pas à ses chansons, mais elle s'en prenait à lui, à son physique, à sa voix. Et donc il y avait quelque chose qui clochait, on a voulu en savoir un peu plus, savoir qui se cachait derrière ce faiseur de tubes, c'est comme ça qu'on le voyait à l'époque. On lui a consacré ce dossier et il ne s'attendait pas à ce qu'on fasse un travail pareil qu'on avait fait auparavant pour Jacques Brel, pour Léo Ferré, pour Georges Brassens et d'autres. Et donc, quand le numéro est paru, après son spectacle au Zénith, j'ai eu la surprise d'avoir un coup de fil et il m'invitait chez lui. Et voilà, bon, j'imaginais que c'était un peu pour solde de tout compte, peut-être pour nous remercier pour ce dossier auquel il ne s'attendait pas, puisqu'il était à l'époque à la une de tous les magazines pour jeunes, comme on les appelait, vilipendé par la presse sérieuse, comme on disait. Et en revanche, nous, on était un peu entre les deux, à Paroles et Musique. Donc, on a fait une interview, une analyse de l'œuvre. Enfin, on l'a traité vraiment sérieusement. Paroles et Musique, c'était un mensuel qui parlait de la chanson comme d'un art. Et donc, on s'est rencontrés. Il m'a invité chez lui. Et puis, effectivement, à un moment donné, il m'a dit qu'il ne s'attendait pas à ce qu'un journal sérieux comme Paroles et Musique s'intéresse à lui. Et puis finalement, on s'est trouvé très vite beaucoup de points communs et ça a été le début d'une longue amitié en fait.
Oui, ça a été un peu concomitant, ça a été vraiment un coup de cœur pour l'homme et pour l'artiste.
Oui, les deux à la fois. Et puis on a parlé d'artistes que l'on aimait, qui n'étaient pas forcément connus à l'époque, mais qui avaient beaucoup de talent. On s'est retrouvés sur... la même longueur d'onde pour bien des choses. Et c'est vrai que très vite, j'ai compris que derrière ce grand magicien de la note et du verbe, il y avait un homme qui était aussi important que le professionnel. Et très vite, cette humilité qu'on lui connaît maintenant, qui est une notoriété publique, m'a énormément frappé. À l'époque, il était quand même au sommet. Il restait d'ailleurs très longtemps. Il était en train de battre les records de vente de disques, records de fréquentation de spectacles, que détenait jusqu'à présent Jacques Brel, qui à l'époque n'arrêtait pas de tourner. Et néanmoins, il était d'une simplicité, d'une humilité incroyable. Et ça m'a énormément frappé, puisque bon, j'ai travaillé 40 ans dans la presse chanson, j'ai rencontré à peu près tous les artistes célèbres ou moins célèbres, et je crois que je n'ai jamais eu un tel choc qu'avec Jean-Jacques Goldman, avec cette simplicité, alors que sa notoriété l'aurait autorisé à être, disons, un peu moins modeste.
Oui, vous dites qu'il est discret, qu'il est modeste. C'est un artiste qui ne s'est jamais vraiment montré. Et vous avez parlé tout à l'heure de polémiques. Justement, il les vivait comment, ces polémiques?
Jean-Jacques Goldman est quelqu'un qui a toujours laissé dire et laissé faire en ce qui le concernait. C'est-à-dire qu'il n'est jamais rentré dans la polémique. On lui connaît une seule réaction, c'est suite à cette fameuse polémique qui est maintenant encore dans tous les esprits, celle de Toute la vie, la chanson qu'il avait écrite en 2015 pour Les Enfoirés. Et ça a pris une telle ampleur sur les réseaux sociaux, bon, que ça a été relayé même par les médias, tellement ça devenait quelque chose d'invraisemblable. Et donc il a eu besoin d'entrer dans l'arène pour mettre fin à cette polémique absurde. Et il est intervenu pendant 3 ou 4 minutes, pas davantage, sur Canal+, si vous vous souvenez.
Le petit journal. Hein.
Voilà, le petit journal. Il a tourné la chose par la dérision, il a mis tous les rieurs de son côté et ça a mis fin à la polémique qui enflait et puis qui cachait beaucoup de choses, hein, et parfois des choses nauséabondes. Et évidemment, il a été blessé par ça. Hein. Il ne s'est pas épanché, en tout cas pas publiquement, il n'en a pas parlé. Mais c'est évident que il a été touché par ça parce que lui ne prenait aucun parti dans cette histoire. C'était pour rappeler, en gros, la querelle des anciens et des modernes, les jeunes et les anciens qui se mettaient, qui passaient la main en quelque sorte aux jeunes en leur disant « bon, on vous laisse pas un monde dans un très bon état, mais maintenant c'est votre tour, essayez de faire mieux que nous ». Et les gens l'ont pas forcément compris comme ça, pas à travers la chanson quand la chanson est parue, mais quand le clip a été diffusé. Je pense qu'il y a eu la violence des images qui opposait les jeunes aux moins jeunes, et là bon, ça a pu choquer certains. Moi, je suis convaincu que c'est l'image qui a provoqué au départ cette polémique. N'empêche que Jean-Jacques, le soir où il est intervenu à la télévision pour désamorcer tout ça, m'a dit, n'empêche que la prochaine fois, je ferai plus attention. Et ça, c'est un trait de caractère très, très important chez lui, c'est-à-dire qu'il n'a jamais rejeté la faute sur qui que ce soit d'autre. À chaque fois, quelque chose n'a pas fonctionné comme il aurait pu le penser. Il s'est dit, c'est parce que j'ai fait une erreur quelque part, j'ai mis un mot à la place d'un autre, j'ai pas bien articulé telle ou telle chose. Il n'a jamais cherché de bouc émissaire. Et ça, c'est un trait de caractère à la fois déterminant chez lui et très attachant.
Et vous pensez que cette histoire a pu jouer sur son retrait vraiment définitif, parce qu'il avait déjà annoncé son retrait un petit peu plus tôt, mais en tous les cas, son retrait définitif, même des Enfoirés?
Oui et non. Alors, son retrait de la chanson, en fait, ça remonte à sa dernière tournée. Hein. Le dernier spectacle, il l'a donné en décembre 2002. Les Enfoirés, il les a continués donc jusqu'en 2016 inclus. Et il a annoncé son retrait en mai 2016. Et en fait, il avait une échéance qui était celle de ses 65 ans, qu'il a eu donc en octobre dernier, 2016. Et il ne se voyait pas continuer encore des années à porter quelque chose d'aussi lourd que les Enfoirés, sachant que n'étant plus lui-même artiste en activité, les années passant, il s'est trouvé de plus en plus déconnecté de la réalité musicale du moment, et il s'est dit, il est temps de passer la main à plus jeune que moi. C'est aussi simple que ça, hein. Il avait ça dans la tête depuis longtemps. Alors dire que la polémique a accéléré son départ, ça je ne le crois pas du tout, mais c'est sûr qu'elle n'a rien fait pour l'empêcher de s'en aller.
Ouais, alors le premier retrait dont on parlait, donc c'était après la tournée décembre 2002. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il a pris la décision en fait de quitter son public, la scène, alors qu'il était en pleine gloire?
Alors c'est très simple, c'est un peu comme pour Jacques Brel, hein, chacun dans son genre. Je parle de Jacques Brel parce qu'en fait il n'y a que deux artistes dans l'histoire de la chanson française qui ont arrêté leur métier au fait de la gloire en pleine apogée, c'est Jacques Brel et Jean-Jacques Goldman, alors qu'on aurait tous bien aimé évidemment qu'ils continuent à chanter encore quelques dizaines d'années, ils auraient très bien pu le faire, tout comme Charles Trenet ou Aznavour par exemple. Et lui, il faut remonter un petit peu au départ, hein. C'est-à-dire que quand Jean-Jacques Goldman a démarré avec ce premier album et puis ce premier succès qui s'appelait « Il suffira d'un signe », c'était en 1981, il n'envisageait pas de faire de la scène. Il se voyait comme il adorait la musique, il avait déjà ce don incroyable de la mélodie, notamment, et il pensait écrire pour les autres, mais pas chanter lui-même sur scène. Et à un moment donné, donc, l'opportunité s'est présentée de faire un disque. La maison de disques, qui a été contactée par son éditeur, lui a dit « bon, d'accord, on va prendre les chansons que vous m'apportez ». C'était sur une cassette artisanale, mais à condition que ce soit l'artiste qui les a enregistrées qui fasse le disque. Alors, Jean-Jacques a répondu « pourquoi pas ?», mais toujours sans l'idée de mener une carrière de scène. Et puis, maintenant je vais aller plus vite, on sait, la carrière, tout s'est enchaîné, on sait qu'il a été pris dans un engrenage, il n'a pas arrêté de tourner, les succès ont succédé au tube, etc. Et à un moment donné, eh bien, il a eu l'impression de passer complètement à côté de sa vie, sinon familiale, en tout cas de l'éducation de ses enfants. Il avait trois enfants. Et à un moment donné, c'était un mois avant la sortie de son dernier album, donc en octobre 2001, eh bien, il s'est remarié. Il avait quitté sa première femme 4 ans plus tôt. Il s'est remarié et il a eu une petite fille avec elle. Aujourd'hui, il en a 3. Et là, il s'est dit que la vie lui donnait une opportunité, une seconde chance, et il n'a absolument pas voulu la manquer. Donc, ce sont des raisons personnelles, familiales, qui l'ont conduit à arrêter, et en aucun cas un manque d'inspiration ou quoi que ce soit d'autre. Simplement, il s'est dit qu'artistiquement, bon, il n'apporterait peut-être plus grand-chose d'important à ses yeux, hein, que ce qu'il avait déjà fait, et qu'en revanche, pour sa vie personnelle, familiale, il avait la possibilité de s'occuper de sa petite fille et puis de celle qu'il avait bien l'intention, enfin des autres enfants qu'il avait bien l'intention encore d'avoir avec sa femme.
Oui, il a toujours été très discret avec sa vie privée. Pour autant, quand on lit votre livre, on apprend énormément de choses sur lui, sur sa vie privée, justement. Comment est-ce qu'il a réagi en lisant votre livre? Est-ce qu'il s'y attendait? Est-ce qu'il pensait qu'il allait avoir ça à l'intérieur?
Alors, il savait, évidemment, puisque ça faisait des années que je lui en parlais. En fait, dès 1991, c'est-à-dire 5 ans après la rencontre, je lui avais proposé d'écrire un livre avec lui à 4 mains. Et on en a parlé longtemps, pendant des années. Et puis, à chaque fois, en gros, il me disait que non, qu'il n'était pas question pour lui d'écrire un livre sur lui-même, qu'il y avait bien d'autres sujets qui l'intéressaient dans la vie que sa petite personne. Et donc, un beau jour, je lui ai dit, écoute, ce livre, je vais finir par le faire, mais je vais le faire tout seul. Et puis, il m'a dit, fais-le quand tu veux, ce sera ton livre. Et puis, voilà, on n'en parlera plus. Mais il n'est pas sûr que je le lirai, comme je n'ai jamais lu aucun livre sur moi, comme je n'ai jamais regardé le moindre documentaire à la télévision me concernant, comme je ne lis jamais les articles de presse me concernant aussi. Et donc, alors, je lui ai envoyé, bien entendu, j'ai reçu des nouvelles par ailleurs, mais pas un mot sur le livre. Mais ça, je m'y attendais, évidemment. Et à mon avis, il ne l'a pas lu. Peut-être qu'il le lira plus tard, je l'espère. Mais il savait, bien entendu, que j'allais raconter d'une manière, je pense, la plus discrète et décente possible. J'allais raconter l'intérieur de Jean-Jacques Goldman, ainsi que l'extérieur, c'est-à-dire sa carrière, les disques, enfin, puisqu'il y a tout un testament artistique, en quelque sorte, hein, il commente l'ensemble de sa carrière, de sa discographie. Et à côté de ça, j'ai voulu montrer qu'il y avait une adéquation totale entre l'homme et l'artiste, et pour ça, il fallait absolument que je donne des exemples précis de nos conversations, de nos mails, de nos rencontres, de nos coups de fil privés, mais que je pouvais quand même me permettre de publier. Et ça me paraissait important parce qu'en 2001, lorsque son dernier album est paru, il y a encore eu une partie de ce qu'on appelle la grande presse qui a voulu démontrer que Jean-Jacques Goldman était un faux modeste, un personnage finalement hypocrite qui faisait du marketing en ayant l'air de ne pas en faire. Et ça m'a vraiment énervé. Et j'ai voulu montrer ça, hein, que tout comme Brel, qui s'est révélé à lui-même et qui a réalisé la jonction entre l'homme et l'artiste aux Marquises, en se portant au secours des Marquisiens, en sauvant même des vies, eh bien Jean-Jacques Goldman, sans aller jusque-là, c'est la même genre d'adéquation, une œuvre, ça, il n'apprécie pas, des chansons. Un jour, il m'a dit « J'espère bien que personne ne parlera d'œuvre à propos de mes chansons. » Ah, s'il écoute, il ne va pas être content. Donc, des chansons formidables, enfin que j'estime formidables, avec un message positif, et puis des mélodies qui prennent au cœur et à la tête, et bon, qu'on est en droit, évidemment, d'apprécier plus ou moins, hein, des goûts et des couleurs, mais un homme derrière qui est vraiment au diapason.
Et vous, alors j'imagine que c'est très difficile, il y a énormément de titres, mais s'il y a un titre qui vous a marqué dans la carrière de Jean-Jacques Goldman, ça serait lequel?
Alors un seul titre, évidemment c'est difficile, mais malgré tout je dirais « Veillez tard », Parce que Veillez tard, c'était en quelque sorte la chanson fondatrice des rapports entre Jean-Jacques Goldman, entre l'auteur-compositeur et son public. Enfin, ce qu'il n'appelle d'ailleurs même pas son public, puisqu'il se dit, moi je ne peux pas dire mon public parce qu'il ne m'appartient pas, je parle toujours des gens qui me suivent. Et c'est une chanson donc des tout débuts de sa carrière qui a noué des liens très très particuliers et surtout très forts entre le public et lui-même. Comme il le dit un moment dans la chanson, ces liens que l'on sécrète et qui joignent les êtres. Et ça a été vraiment comme un mot de passe entre le public et lui, le public qui ne l'a plus jamais lâché depuis.
Alors, en travaillant sur ce livre, vous aviez évidemment vos documents personnels, vos rencontres en tête. Vous êtes aussi allé chercher ailleurs, j'imagine. Est-ce que vous avez appris des choses que vous ne saviez pas ?
Ah, bonne question. Non, je ne crois pas. Ça peut paraître un peu prétentieux, mais il se trouve que j'ai été pendant 30 ans assez proche de Jean-Jacques. À chaque fois que je l'ai sollicité pour un entretien, il me l'a toujours accordé sans la moindre réserve, sans demander à relire l'article. On prenait des photos, il n'a jamais demandé à revoir les photos. Enfin, ça a toujours été des rapports très très privilégiés, et pas simplement parce qu'il y a eu des rapports de confiance dès le départ. J'avais envie de lui poser une question, je l'ai lui posé, il me répondait, et je crois bien que, alors en privé ou en public, hein, pour Paroles et Musique d'abord, et la revue Corus que j'ai animée ensuite jusqu'en 2009, et je crois bien que, même s'il a, comme tout le monde, son jardin secret, pour l'essentiel, je crois bien que je connaissais déjà tout avant d'écrire le livre.
Mais on sent beaucoup de tendresse dans ce livre.
Oui, ça c'est... Bon, il faudrait me connaître un petit peu, mais moi qui ai écrit sur tous les artistes, hein, depuis Charles Trenet jusqu'au plus jeune d'aujourd'hui, puisqu'on s'est toujours beaucoup intéressé aux découvertes dans nos journaux, les rares livres que j'ai écrits, il y a eu ce livre sur Jacques Brel aux Marquises, où j'ai eu la chance de devenir ami des anciens amis de Jacques Brel sur place, et puis celui sur Jean-Jacques, ce ne sont pas vraiment des biographies, ce sont des livres qui donnent à montrer aux lecteurs que ces gens-là ne les ont pas trompés, que l'homme était vraiment à la hauteur de l'œuvre. Et je ne me verrais pas écrire, j'ai édité énormément de biographies avec nos journalistes sur à peu près tout le monde, mais personnellement je ne me verrais pas consacrer plusieurs mois, un an, deux ans de ma vie sur une œuvre simplement, sur un chanteur, sans savoir que derrière l'homme est vraiment aussi à la hauteur de l'œuvre qu'on adore.
Et vous pensez que c'est cette discrétion et cette honnêteté qui fait qu'il a été élu pendant des années personnalité préférée des Français, alors que finalement il était même pas sur le devant de la scène à ce moment-là, et pourtant il était porté au nu par les Français?
Oui, alors d'abord et avant tout, ce sont ses chansons, évidemment. Quand il est arrivé, on était à la fin des années 70, début 80, on était encore dans cette chanson, disons, représentée par Renaud, Bernard Lavilliers, Maxime Le Forestier, qui sont formidables, évidemment, mais qui étaient encore dans la mouvance des années 70, porteurs d'idéologie, etc. Il y avait une forme de combat tout à fait respectable, et puis avec des chansons formidables. Mais Jean-Jacques, lui, a rompu avec les idéologies, et il s'est adressé directement aux gens, à l'individu, en disant, le monde est tel qu'il est, il faut essayer de le changer, mais on n'y arrivera pas par les idéologies, par la masse. Chacun doit porter sa pierre à l'édifice et chacun peut changer la vie là où il est. C'est le sens de sa chanson « Il changeait la vie », le cordonnier, le musicien, etc. Et je crois que c'est ça. Et d'abord et avant tout, les gens se sont reconnus dans ces chansons de façon très très intime. Et puis le fait qu'elle soit portée par un personnage dont tout le monde a compris très vite, sauf évidemment ceux qui lui ont fait des procès d'intention, que c'était quelqu'un de tout à fait honnête, sincère, authentique, et qu'il ne cherchait jamais à tirer la couverture à lui, qu'il n'a jamais cherché à répondre aux nombreuses critiques dont il était l'objet, etc. Donc quelqu'un de simple. Et je crois que les deux conjugués, c'est un cocktail tellement rare, qu'aujourd'hui encore, plus de 15 ans après son arrêt de la scène, Et puis, un an de plus après son dernier album, il reste toujours, sinon, la personnalité préférée des Français, puisqu'il est passé troisième depuis qu'il a arrêté Les Enfoirés. En tout cas, c'est le chanteur préféré des Français, ça ne fait aucun doute.
Alors, plus de scène, mais il a quand même continué à collaborer avec d'autres artistes, avec toujours ce don, en fait, que les chansons ressemblent à l'artiste qui les chante. C'est assez, enfin, je trouve ça assez extraordinaire. Notamment, la dernière collaboration, là, en date, avec Céline Dion.
Oui, c'est vrai. Et là, il ne voulait pas écrire. Hein. Enfin, c'est-à-dire qu'il estimait qu'il n'avait plus rien à dire pour Céline Dion. Elle voulait que Jean-Jacques lui écrive un nouvel album. Et il avait déjà tant donné pour elle. Avec cette faculté qu'on lui connaît. Enfin, moi, je l'ai toujours vécu comme ça. C'est un véritable caméléon. À partir du moment où il y a un rapport d'estime entre lui et son interprète, il se glisse dans la peau de cet interprète. C'est une forme d'empathie absolument incroyable qui est très très rare dans le monde de la chanson. Et il écrit exactement ce que l'interprète aurait voulu écrire s'il ou elle avait eu ce talent d'auteur-compositeur. Et bon, il m'a dit plusieurs fois qu'il arrêtait. Alors, pour en terminer sur Céline Dion, elle lui a raconté un petit peu ce qui lui arrivait à ce moment-là, de dramatique d'ailleurs dans sa vie familiale. Et puis très vite, il a eu cette idée, encore un soir, et qui a donné lieu à une chanson absolument magnifique, bouleversante. Et oui, je voulais vous dire qu'il m'a dit plusieurs fois qu'il arrêtait d'écrire pour les autres de façon importante, mais qu'il continuerait quand même pour les amis. Si... Voilà, que lui n'irait plus au-devant, ce qu'il n'a quasiment jamais fait, sauf pour Céline Dion, que ce sont les rencontres, la vie, qui lui ont donné l'occasion parfois de... en connaissant un peu mieux les gens, les artistes, de répondre à leurs sollicitations. Il continuera d'en écrire hein, pour les amis, comme il me l'a dit, qui auront besoin de lui, mais sans plus. Hein. Il y a déjà bien longtemps qu'il a remisé sa guitare dans son étui, et il ne la ressort qu'à ce genre d'occasion exceptionnelle, comme pour Céline Dion.
D'accord, mais il joue quand même ? Tout seul, voilà, chez lui, pas forcément pour les autres, mais est-ce que la musique fait toujours partie intégrante de sa vie ?
Eh bien, je vais peut-être vous décevoir, mais non. Ne fait plus partie de sa vie, ne joue plus d'instruments de musique chez lui. Et quand il participait encore aux Enfoirés, ce qui est tout récent, c'est jusqu'à l'année dernière, bon, on échangeait toujours, j'ai donné quelques exemples dans le livre. Et il me disait, bon, ça y est, quoi, la période est revenue où il va falloir que je me remette à travailler la guitare et puis que je retravaille ma voix parce que la voix, c'est quelque chose qu'on perd très, très vite. Et donc, ça m'amusait toujours parce que quand je voyais l'émission des Enfoirés, finalement, on se rendait bien compte, évidemment, qu'il n'avait rien perdu de ses qualités d'instrumentiste et ni d'interprète vocal. N'empêche qu'il reprenait tout à zéro chaque année.
Donc j'allais vous demander si vous pensez que ce départ est définitif. Il a bien l'air définitif.
Alors, c'est évidemment, il n'y a que lui hein, qui puisse répondre à cette question. Je lui ai dit moi-même que personne ne pouvait jamais dire jamais, que c'était faire insulte à la vie. Donc j'espère, comme son public... J'espère qu'il reviendra d'une manière ou d'une autre. Alors, pas forcément avec un disque et une tournée, enfin, de manière classique. Il pourrait très bien décider de reprendre d'anciennes chansons et puis de les réenregistrer lui-même en piano-voix, par exemple, en guitare-voix, enfin, quelque chose d'intimiste. Et puis, je sais qu'il est parfaitement capable, si vous lui donnez comme défi d'enregistrer un nouvel album dans les 3 mois qui viennent, il est certain qu'il va vous sortir un nouvel album avec d'aussi bonnes chansons que celles qu'on lui connaît. Il n'y a aucun problème d'inspiration dans sa part, de sa part. Même si à plusieurs reprises, il m'a dit qu'il avait l'impression de se répéter un peu, etc. Mais je me souviens que Claude Nougaro, et c'est ça je l'avais dit à Jean-Jacques, Claude Nougaro, dès le troisième album, m'avait dit que bon, il n'avait fait que se répéter ensuite.
Et pourtant,
oui, non, mais c'est-à-dire que les chanteurs, évidemment, il y a trois ou quatre thèmes importants, hein, la vie, l'amour, la mort, et puis bon, on décline ça, mais c'est ce qui est passionnant, justement, c'est la façon différente de chacun de ces artistes de décliner ces thèmes-là, et qui est infini, en fait. Et donc Jean-Jacques pourrait très bien revenir, il a le talent est là, l'inspiration serait là, c'est l'envie qui lui manque. Hein. Pour le moment, l'envie s'est enfuie, c'est tout ce qu'on peut dire.
Bon, pour finir, votre livre, évidemment, se conclut par des remerciements, mais également par une phrase adressée à Jean-Jacques Goldman, où vous lui dites pardon.
Oui, parce que plusieurs fois, il m'a dit « bon, bah, fais-le si tu as envie de le faire, mais je préférerais autant que tu ne le fasses pas ». Ça recoupe tout simplement, c'est paradoxal, mais c'est aussi pour ce genre de raison que j'ai voulu faire ce livre, en sachant que j'allais le gêner quelque part, puisqu'il n'aspire finalement qu'à une chose aujourd'hui, c'est qu'on ne parle plus de lui. Il voudrait retrouver cet anonymat auquel aspirait Jacques Brel, et Jacques Brel, lui, il est parti sur les mers, il a acheté un voilier, et puis... il est parti à l'autre bout du monde, donc c'était beaucoup plus simple de retrouver l'anonymat. Jean-Jacques Goldman est exactement dans le même cas de figure, sauf qu'il n'a pas le même genre de vie. Et donc, je me suis excusé, tout en ne regrettant rien, puisque je pense qu'il fallait que ce livre paraisse pour donner à... non pas à découvrir Jean-Jacques Goldman de l'intérieur, mais à confirmer cette impression que les gens ont et qui n'a absolument rien de factice, comme malheureusement une certaine presse a voulu le faire croire à un moment donné. Et donc voilà, ça a été compliqué pour moi d'écrire ce livre et de le terminer, mais je l'ai tenu informé régulièrement et le jour où je l'ai terminé, je lui ai dit « ça y est, c'est fini, je vais le remettre à l'éditeur et j'espère que tu le liras un jour ».
Bon, vous pensez qu'il l'a lu ou pas encore ?
Alors, non, je ne sais pas, mais mon intime conviction, c'est qu'il ne l'a pas encore lu. Je pense qu'il le lira parce qu'avec le temps, maintenant qu'il a quitté les Enfoirés, il va retrouver cette distance qui est finalement une distance. C'est curieux de dire ça a posteriori quand on sait la carrière qu'il a eue. Mais c'est une distance qu'il n'aurait jamais voulu perdre en 1981, lorsqu'il a enregistré son premier album. Il espérait que ça resterait au niveau du disque, et puis que ça l'aiderait peut-être à placer ses chansons pour d'autres interprètes, d'autres artistes. Et donc voilà, quoi. Il y a eu en gros 20 ans, puisque son premier album date de 81, le dernier est de 2001. Ça a été 20 ans, entre parenthèses, où il s'est trouvé pris dans un tourbillon absolument incroyable et grâce auquel il nous a légué des chansons magnifiques.
Eh bien, c'est parfait. Freddy Hidalgo, je vous remercie beaucoup.
Merci à vous de m'avoir accueilli.